Franck de Dieu.
Je suis journaliste au magazine L'Expansion. Nous sommes trois journalistes, Benjamin Mastin-Berger, qui est journaliste à L'Express, et Adrien Tricorneau, journaliste au Monde. Donc, trois médias qui sont souvent considérés comme étant plutôt favorables au libre-échange et plutôt défavorables au protectionnisme, qui a été un mot relativement diabolisé par l'ensemble des médias, en particulier dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Nous, nous sommes arrivés, je dirais presque par défaut, par empirisme à cette thèse, puisque nous avons dans chacun de nos quotidiens magazines suivi la crise économique, la crise financière et également la crise, je dirais, des États souverains. Et nous sommes partis, en fait, du point de départ que cette crise, elle n'était pas forcément due à une forme de laxisme des gouvernants qui n'arrivaient pas à faire voter des budgets à l'équilibre. Et de degré en degré, on s'est aperçu qu'en fait, cette crise, elle avait pour origine des déficits commerciaux, qui sont les parents des déficits budgétaires. Je m'explique. C'est que ce libre-échange a amené à la désindustrialisation des pays développés, ça tout le monde le sait, et que par voie de conséquence, ce libre-échange a rétréci, je dirais, la masse taxable des pays. Il n'y avait plus de recettes, plus suffisamment de recettes à cause de la désindustrialisation pour amener des budgets à l'équilibre, mais également parce que nous sommes des États-providence et que même Sarkozy, qui a eu un langage de rupture, n'a pas mis en cause de manière radicale l'État-providence. On le prouve par des chiffres. Vous avez la dépense publique qui a largement augmenté, en particulier la dépense sociale. Donc ces États-providence étaient amenés d'un côté à perdre de la recette fiscale, parce qu'elles n'avaient pas de base industrielle, et de l'autre côté à, je dirais, réparer les dégâts du libre-échange. Réparer les dégâts de cette désindustrialisation par des dépenses. Des dépenses pour venir en aide aux chômeurs, pour venir en aide aux classes moyennes, pour faire des chèques, etc. Et donc, finalement, vous avez ce libre-échange qui fait perdre des deux côtés, je dirais, du volet budgétaire, des recettes, et qui produit des dépenses. Et qui en produit d'autant plus que vous avez souvent des patrons qui exige pour rester en France des aides, 60 milliards d'aides chaque année, qui résultent finalement de cette mise en concurrence des droits sociaux, des droits fiscaux, des droits environnementaux entre pays développés et pays émergents. Donc l'idée, c'était, compte tenu de cela, rétablir les conditions d'une concurrence loyale. D'une concurrence loyale avec les pays en développement, en particulier la Chine, dont les salaires sont 10 à 15 fois moins chers qu'en France, on le sait. Et finalement, on s'est aperçu que, à partir du moment où on ne choisit pas de faire du libre-échange, à partir du moment du protectionnisme, à partir du moment où on est amené à, par nature, avoir une base taxable qui diminue et des dépenses sociales qui augmentent, on va être amené, selon nous, si on ne fait pas ce choix du protectionnisme, à faire un choix qui passera par la case budgétaire, c'est-à-dire un choix à l'islandaise, soit vous ne faites plus d'État-providence, vous ne faites plus fonctionner vos services publics, soit vous remboursez vos créanciers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous allons arriver à une sorte de point focal, à un point de bifurcation où il va falloir choisir. Alors, on va peut-être en parler au cours des prochains débats, mais les candidats ne font pas ce choix-là. Hein, ils esquivent le sujet du protectionnisme ou du libre-échange, mais il y a un moment donné où va se poser un choix à l'islandaise. Je crois que les Français n'ont jamais été aussi libres que sous la notation des agences. Vous avez en fait deux candidats. L'un, Sarkozy, parce que vous m'avez dit, dites un mot sur le modèle allemand. Sarkozy fait le choix des deux modèles, finalement. Il fait le choix du modèle allemand, qui est un modèle de compétitivité, de baisse salariale, tourné vers, je dirais, la mondialisation, vers l'Asie, avec l'idée de vendre des produits made in Germany en Asie. Et d'un autre côté, il fait aussi le choix, après le discours de Villepin, d'un discours finalement assez protectionniste. Et ce que je crois, c'est que les deux sont antinomiques. L'un est favorable à une construction politique européenne, qui est le protectionnisme à l'échelle européenne, et un autre est favorable, au contraire, à une Europe, on le sait, des marchandes, à une Europe qui est plutôt tournée vers la mondialisation. Ce pourquoi, je crois, les deux candidats n'ont pas véritablement choisi. Les deux principaux candidats n'ont pas voulu choisir. Hollande n'a choisi aucun des deux, finalement. Ni entre le protectionnisme européen, qu'il appelle juste échange, mais qui tarde à promouvoir certains proches de lui, notamment du côté de la première gauche, ou fabusienne, pousse cette idée de juste échange, mais il ne parvient pas véritablement à l'assumer. Et Sarkozy assume les deux. Ce que les deux ont encore en tête, et notamment par l'intermédiaire des économistes, qui sont plutôt libéraux, orthodoxes et farouchement opposés au protectionnisme, c'est que en laissant libre le marché, vous allez aboutir à une convergence des salaires. On entend dire que les Chinois font grève, qu'ils obtiennent 20-30% de salaire, d'augmentation de salaire. Ce que nous, on croit, c'est que on a fait d'ailleurs travailler des économistes sur cette question-là. En gros, à quel moment on arrivera à un SMIC mondial? À quel moment il y aura une convergence des salaires de sorte qu'on n'aura pas peur d'être sous la menace d'une délocalisation? De sorte que l'ouvrier de Clermont-Ferrand, de Michelin, quand il ira pointer, il n'aura pas peur d'être, sous la menace d'une délocalisation parce qu'il est considéré comme moins cher par rapport à son homologue chinois de Michelin à Shenzhen. À quel moment? En gros, c'est 40 ans. C'est-à-dire que si on laisse les forces du marché, parce que ça a été ça, le pari dans les années 90, auquel a cru d'ailleurs la gauche, le pari des années 90, c'était de se dire que les salaires, par le libre jeu du marché, allaient augmenter dans les pays émergents, allaient converger à un rythme très élevé, et donc à un moment donné, il n'y aura plus d'intérêt à la délocalisation. Ça, c'est 40 ans. 40 ans d'ici là, vous pensez bien qu'on aura le temps d'avoir un tissu industriel délabré, d'une part, et d'autre part, un risque politique d'avoir au pouvoir, des votes extrémistes extrêmement étoffés. Donc, cette idée du libre-échange qui supposerait finalement un SMIC mondial ne peut pas tenir à une échelle politique, peut-être à une échelle, historique, 40 ans, certains disent finalement c'est pas grand-chose, à l'échelle politique, c'est énorme. À partir de là, comment accélérer cette convergence? Et c'est en ce sens où le protectionnisme, qui est souvent considéré, qui peut être considéré comme une sorte de repli sur soi, ou même qui refuse de faire de son lointain son prochain, c'est que ce protectionnisme-là, nous pensons à un protectionnisme altruiste. C'est-à-dire que ces droits de douane qui seront perçus à l'échelle européenne, c'est-à-dire aux frontières européennes, ne viendront pas augmenter un budget européen ou des budgets nationaux pour rétablir les équilibres dans notre esprit. Ces droits de douane serviront finalement à compenser et à rendre loyale une concurrence. Et le produit de ces droits de douane, nous pensons justement à les redistribuer à ceux qui les paient. Bon, alors vous me direz, finalement, c'est un cercle fermé. Sauf que, prenez de l'exemple du protectionnisme social auquel nous pensons. Nous voulons asseoir ces droits de douane sur le différentiel qui existe entre... Je suis un petit peu technique, mais c'est pas si technique que ça, à vrai dire. Nous voulons l'asseoir sur la différence qu'il y a entre la productivité du travail en Chine, par exemple, l'augmentation de la productivité du travail et l'augmentation du salaire. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on vous raconte, et ce qui est vrai, que les salaires augmentent en Chine, mais ils augmentent moins vite que la productivité du travail. C'est-à-dire que, concrètement, ce que disent les économistes, il y a un mauvais partage de la valeur ajoutée qui se fait au détriment du travail et au bénéfice du capital. Le salaire chinois augmente beaucoup moins vite que la productivité. Il y a un calcul de Cointable qui est fait. En gros, ils perdent 1 à 2 mois de salaire par an. Donc, pour accélérer cette convergence, étant entendu que nous, cette convergence, on la souhaite, mais on ne fait pas confiance au marché pour qu'elle s'accélère. Et je reviendrai justement pourquoi le marché ne permet pas à une classe moyenne d'émerger. C'est que, à partir du moment où on assoit le droit de douane sur un mauvais partage de la valeur ajoutée, on redistribue ce produit de ces droits de douane peut-être à des ONG, peut-être à des syndicats. Il faut voir, évidemment, ça peut être compliqué. Peut-être même pas aux Chinois, mais peut-être aussi en Afrique pour créer une sorte d'augmentation des salaires. À ce moment-là, vous avez une incitation qui n'est pas une incitation d'offre et de demande de marché, mais une incitation à augmenter les salaires en Chine. Donc notre idée, nous, c'est d'accélérer cette convergence. Et ce pourquoi cette convergence ne se produit pas au rythme espéré, par l'intermédiaire du marché, c'est ce qu'on appelle la mondialisation 2.0, c'est que vous avez, à partir du moment où les salaires sont, je dirais, assez élevés, entre guillemets, pour créer un début de classe moyenne, exemple sur la côte est de la Chine, eh bien tout simplement, les salaires, exemple Adidas qui dit les salaires commencent à devenir trop chers en Chine, je vais délocaliser au Laos, eh bien tout simplement, vous avez un blocage des salaires dans des capitales émergentes comme la Pologne, comme l'Ukraine, comme la Chine, qui sont trop élevés, et donc on délocalise ou alors on ne fait pas produire, on investit ailleurs, dans des contrées évidemment qui n'ont pas eu d'augmentation des salaires. Donc de degré en degré, vous avez effectivement un processus qui permet à sortir de la pauvreté des personnes, mais vous n'avez pas l'émergence d'une classe moyenne, puisque lorsque le salaire arrive à un certain étiage, il est quasiment bloqué par la concurrence du low cost au super low cost. Nous, notre idée avec le protectionnisme européen, c'est tout simplement de casser cette logique-là, de faire en sorte que nous ne croyons pas à cette convergence par le marché. Il faut que cette convergence, elle soit guidée par l'État. Il faut qu'il y ait une intervention de l'État pour qu'il y ait une meilleure redistribution de ces richesses en Chine ou même ailleurs, qui ne se font pas au bénéfice du capital, mais qui se feraient au bénéfice du travail, au mieux au bénéfice du travail, au pire, je dirais, à ce que le capital soit rémunéré autant que le travail, du moins à la croissance, les gains, en ce qui concerne les gains de valeur ajoutée, soient équitablement répartis entre la productivité du travail et les salaires. On a été confrontés pendant nos travaux, notre analyse, à ce mot de protectionnisme. On a volontairement utilisé le mot de protectionnisme. On voit qu'il y a une sorte d'euphémisation des candidats, des programmes politiques, des écuries qui tournent autour de ce mot pour appeler ça le juste échange au Parti socialiste, appeler ça la réciprocité à l'UMP. Nous, on a utilisé ce mot, peut-être aussi parce que c'était une sorte de défi, c'est un défi économique qu'on s'est lancé, mais c'est aussi un défi sémantique, quelque part. C'est que ces mohanismes ne doivent pas nous faire peur. On a aussi voulu un petit peu rompre avec cette espèce d'ambiance ouatée, rocardo-baladurienne, un peu, vous voyez. Donc c'était un petit peu dépasser ça et utiliser ce mot, de protectionnisme qui ne doit pas faire peur et qui est un mot au contraire généreux, qui n'est pas un mot de repli sur soi à partir du moment où les droits de douane sont récupérés et redonnés. Quelques mots sur le protectionnisme environnemental, c'est que ce mot-là À partir du moment où vous l'accolez au mot environnement, protectionnisme, vous l'accolez au mot environnement, il devient politiquement correct. Vous avez vous réconciliez les bobos bourgeois bohèmes avec les bobos bolcheviques, bonapartistes, et donc finalement ça passe mieux. Donc effectivement, ce mot-là, ce protectionnisme-là est le plus facile à réaliser. Je pense que nous allons commencer par cela. Hein, la gauche et la droite s'attendent à peu près là-dessus. Vous avez des oppositions au sein du Conseil, du Parlement européen, par des Verts scandinaves et hollandais qui considèrent que les Verts français sont des pastèques, disent-ils, c'est-à-dire des pastèques rouges, verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Et donc, ils sont absolument opposés au protectionnisme. Et puis, vous avez le protectionnisme fiscal qui, là, va peut-être venir, non pas du Parlement européen ou des instances européennes, mais peut-être des États-Unis. Parce que Obama considère qu'il voulait, par exemple, dans son employeur Patriot Act de 2007, il n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais ce sont vraiment la fin d'un cycle idéologique, une sorte de bifurcation idéologique qui traverse tous les pays occidentaux et évidemment aux États-Unis, qui a beaucoup moins de difficultés à parler, à évoquer le sujet que nous, pour des raisons historiques, notamment parce que les esclavagistes étaient libre-échangistes, alors que les nordistes étaient plutôt protectionnistes. Donc c'est beaucoup plus facile chez eux. Et vous avez Obama qui, évidemment, commence à travailler sur la fiscalité des entreprises qui délocalisent, mais également des grandes fortunes qui délocalisent. Donc vous avez une sorte de protectionnisme fiscal qui va s'opérer, de protectionnisme environnemental, de protectionnisme monétaire aussi, on n'en parle pas, mais vous avez quelqu'un comme Paul Krugman qui s'est battu dans les années 90 justement pour être favorable, pour combattre les protectionnistes au nom du libre-échange et qui a viré sa cutie, qui a changé. Je trouve que c'est assez courageux de sa part. On peut imaginer que nos économistes français, eux au contraire, restent arc-boutés sur leur position. Ils sont sur des autoroutes mentales qu'ils ne veulent pas quitter, même s'ils sont à quelques mètres du mur. Mais Paul Krugman imagine ce qu'il appelle une taxe de 25% sur la dévaluation du yuan qu'il considère comme étant déloyale dans la mesure où on ne peut pas exporter des biens américains. Et donc on frapperait de cette taxe pour rétablir les conditions monétaires ce coup-ci. Donc, nous, on a beaucoup insisté sur le protectionnisme social, moi aussi, parce que c'est peut-être celui qui est le plus fondamental, c'est-à-dire que c'est celui qui assume à visage découvert le projet protectionniste. Vous avez le protectionnisme fiscal, environnemental et monétaire qui, je pense vraisemblablement, à partir du moment où vous ne pourrez pas, sans ce rétablissement des droits de douane aux frontières, vous ne pourrez pas avoir vous ne pourrez pas avoir de déficit de budget à l'équilibre. Quand quand on entend l'objectif de Hollande d'être à l'équilibre en 2017, l'objectif de Sarko d'être à l'équilibre en 2016, et il y a mieux maintenant, l'objectif de Bayrou qui est d'être à l'équilibre en 2015, je veux dire, c'est absolument, sauf, mais c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de choix fondamental, sauf à mettre à bas notre État providence, sauf à mettre à bas notre État providence, il n'y aura pas d'équilibre budgétaire en 2015, 16 ou 17, comme il n'y aura pas de respect à ce compte-là des 3% de déficit pour respecter les accords européens, 3% du déficit public en 2013. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce qu'il n'y aura pas de croissance. Ça ne se fera pas parce que les politiques d'austérité entraîne une baisse donc de la croissance, bien sûr, mais aussi une augmentation des dépenses et une baisse des recettes. Et parce que dans la boîte à outils, il n'y a plus l'inflation. Il n'y a pas l'inflation. Donc vous ne pouvez pas faire d'inflation qui permettrait, c'est un moyen commode de rembourser la dette publique. Vous ne pouvez pas compter sur la croissance parce que vous êtes dans des politiques d'austérité qui interdisent à court terme la croissance. Vous ne pouvez pas véritablement trop baisser les dépenses parce que vous allez arriver à avoir une dépense à toucher à l'État-providence. Hein, les RGPP de Sarkozy a voulu toucher aux dépenses de l'État. Il a quand même au mieux gagné 8 milliards, c'est-à-dire qu'il a fermé, dans certains départements, 5-6 tribunaux, la moitié des antennes météorologiques, des classes, etc., pour gagner 8 milliards. Pour gagner 8 milliards. C'est-à-dire notre déficit public, c'est autour de, qui est structurel, c'est autour de 40 milliards. Donc il y a un moment donné où il ne faut pas se mentir. Ce que je veux dire, c'est que là, il ne faut pas se mentir. À un moment donné, vous ne pourrez pas avoir 3% de déficit public en 2013 sans toucher à ce qui fait, je dirais, notre contrat social, notre État-providence. Donc je pense que cette question-là, elle va forcément arriver. Alors elle arrive doucement. Peut-être on en parlera pour des raisons idéologiques, de retenue idéologique. Mais cette question-là, elle va devoir se poser très tôt avec une acuité particulière.
Jean-Pierre Le Goff.
Je vais rebondir sur ce que vous avez dit et je vais lire un texte, là, je vous dis, à propos du protectionnisme, puisque la façon dont le protectionnisme a pu être pensé, y compris à gauche, par quelqu'un qui, par ailleurs, je ne donnerai pas le nom, c'est pas dans le genre de la maison, mais est très critique sur le capitalisme, le néolibéralisme, j'en passe et des meilleurs. Alors voilà, car voici le hic avec le protectionnisme, il commence bien mais il finit mal. Il commence à gauche et il finit à l'extrême droite. Il commence avec Montebourg, il finit avec Marine Le Pen. Et non l'inverse, jamais l'inverse. Le protectionnisme n'est pas une voie neutre. Il charrie avec lui une série de poisons qu'il revient à la gauche de combattre. Le nationalisme, la haine de l'étranger, les guerres économiques, en entendant la guerre tout court. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour vous dire un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire, et ça va me permettre de faire la transition, puisque je voudrais m'intéresser aux conditions notamment du débat démocratique aujourd'hui sur des questions comme le protectionnisme, mais d'une certaine façon plus largement. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit quand j'ai lu votre livre, mais je me suis posé la question qui d'ailleurs date d'avant même cette lecture. D'où ça vient? C'est-à-dire, comment en est-on arrivé là? D'ailleurs, je suis frappé dans votre livre, vous parlez de doxa, de dogme à un moment donné, et je pense que ça pose la question, comment se fait-il qu'à un moment donné historique, une partie des élites, sinon la majorité, ait pu être fascinée à ce point par cette doxa? Après tout, ce n'est pas l'explication des mécanismes économiques qui vont nous donner la raison de cette fascination. Je pense que ça renvoie à tout un contexte historique particulier. Je suis tout à fait d'accord pour voir comment ces mécanismes économiques existent, hein, bien évidemment. Alors, je vais m'arrêter sur ces deux points. D'abord, vous parlez d'ailleurs de l'hubris à un moment donné. C'est-à-dire une espèce de bouffée de croyance en l'illimité du marché, mais de façon très dogmatique, de façon très folle, on va dire. Une espèce de... Aujourd'hui, vous le dites très bien, on arrive un peu, on voit bien comment cette fascination... C'est étonnant comment les politiques ont revu quand même leur discours dans un espace de temps très court. Enfin bon. Alors je prendrai deux points. D'abord sur la question des élites, pour rappeler tout simplement un point, le tournant des années 80, qui me semble très important en l'affaire, à un moment où la gauche, d'ailleurs, je crois qu'on sera d'accord, était au pouvoir. J'ai relu d'ailleurs à ce propos le livre de Chevènement à propos de François Mitterrand. C'est quelque chose qui m'a... fasciné, il parle de Paris pascalien. Et le Paris pascalien concerne l'Europe. Mais en fait, c'est bien plus large que l'Europe. C'est une espèce de fuite en avant à un moment donné, où d'ailleurs, il dit, il a choisi de reporter sur l'Europe les lendemains qui chantent. Mais les lendemains qui ne chantent plus, du point de vue, ça c'est mon interprétation, de la doctrine socialiste, qui dès ce moment-là me paraît terriblement en morceaux, d'une certaine façon. Et je pense que... véritablement, les années 80, là j'ai pris l'Europe, Marcel Gauchet en parlera beaucoup plus précisément que moi, mais je pense que là, il y a une véritable fuite en avant dans un moment particulier où tout ce qui faisait les ressources, notamment à gauche, apparaissent véritablement en morceaux, et je parlerai volontiers de fuite en avant. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup plus, je dois dire dans votre livre, c'est au sein même de la société. Comment en est-on arrivé là? Pas simplement du côté des élites, mais du côté de la société elle-même. Et d'ailleurs, je vous cite, vous parlez à juste titre, et je suis absolument d'accord, les consommateurs sont aussi des salariés. Ça revient d'ailleurs, hein, vous le dites à juste titre, ce qu'on oublie complètement aujourd'hui. Mais vous dites en même temps une chose qui me paraît totalement juste, vous parlez d'une schizophrénie entre le consommateur, le salarié et le citoyen. Et précisément, je pense que c'est une des questions les plus difficiles à résoudre du point de vue, j'allais dire, de faire accepter le protectionnisme. Parce que paradoxalement, mais j'y viendrai, on peut avoir des positions très dures, j'allais dire en parole sur le protectionnisme, simplement sur les faits. En tant que consommateur, on demande, et à juste titre, à regarder ce que ça veut dire très concrètement. Je vois une espèce de contradiction qui n'est pas forcément facile à résoudre et qui me paraît un des symptômes, il y en a d'autres, d'un certain éthos de la société actuelle qui est problématique. Alors, cet individualisme-là, qui met quand même en priorité la dimension du consommateur, je pense qu'elle existe évidemment dans le champ de l'économie, mais qu'on peut le retrouver dans les autres champs. Par exemple, dans le champ politique, où vous pouvez avoir une critique extrêmement virulente du capitalisme, du néolibéralisme, ou encore de l'hyperlibéralisme, formule de Marine Le Pen qui s'est mise aussi. Ça peut s'accompagner en même temps, très concrètement, d'une forme d'incohérence et d'une pratique assidue, au moins pour une certaine catégorie, des bienfaits de ce néolibéralisme, notamment en ce qui concerne la consommation et les loisirs, si on en a les moyens, tout en étant très critique. D'ailleurs, ce qui m'avait beaucoup frappé dans les sondages qui avaient été faits sur le vote Montebourg, c'est que je croyais que ceux qui étaient pour le protectionnisme à propos de Montebourg étaient dans les périphéries de la France. Eh bien non, c'était les grandes métropoles un peu mondialisées. Et il y a, à mon avis, une forme, je ne dirais pas d'incohérence, mais qui me semble... Dans le champ culturel, si pour aller vite, là aussi, la dimension de la consommation par rapport à la citoyenneté, où la culture n'est pas prise, ça ne date pas, évidemment, de maintenant, n'est pas prise comme un élément structurant, j'allais dire, de la formation du sujet ou de l'individu. Ce n'est pas pris non plus forcément comme ayant des enjeux renvoyant, éclairant des enjeux de la vie individuelle et collective, mais elle est beaucoup plus appréhendée soit dans une optique d'animation, bon, il y a tous les jours des fêtes où la dimension festive l'emporte sur la dimension culturelle, ou alors dans une dimension, je dirais, de consommation et de loisirs. Après tout, disant ça, il n'y a pas de jugement, disant c'est pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, la dimension de la consommation, on peut la retrouver. Puis enfin, là, j'irai très vite dans la dimension de la formation et de l'école, où à la fois, on a affaire à une logique adaptative à court terme, avec de multiples outils d'évaluation, et puis en même temps, quand même, le droit à la réussite pour tous, et chaque homme politique ayant trouvé le bon outil pour y arriver. Donc, on est à chaque fois, si vous voulez, dans ce genre de contradiction. Alors, la question que je me suis posée, elle est très simple. Comment comprendre ce phénomène? Et est-ce que c'est le produit pur et simple du néolibéralisme? Voilà un peu la question pour prolonger. Je crois que la situation est en fait beaucoup plus complexe. C'est que, et effectivement, comme je l'ai dit, Nicolas Sarkozy s'inscrit dans cette logique. Mais enfin, il ne l'a pas créée de toute pièce, de même que les économistes libéraux ne l'ont pas créée de toute pièce. Pour le dire en quelques mots, parce que ce n'est pas le sujet de ça, je pense que la genèse de ce qui s'est passé... J'insisterai sur un seul point, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je pense qu'une rencontre s'est opérée à un moment donné au sein même de la société entre du côté le retour d'une certaine dogmatique économique libérale fin 70-80, y compris dans le champ international, avec une transformation de la société extrêmement importante dont l'héritage impossible de mai 68, pas mai 68 comme tel, on pourra en discuter. À mon avis, cette rencontre a produit des effets de la société où on ne peut pas dire simplement, comme je ne parle pas de vous, bien évidemment, c'est la faute à. C'est la faute aux banquiers. Alors, encore une fois, je tiens à préciser qu'il y a une responsabilité des banquiers, qu'il y a une responsabilité. Mais la logique de c'est facile de dire c'est la faute à cela, alors que nous, la société, nous ne sommes pas concernés par ce néolibéralisme, d'où une position de dénonciation extérieure, me semble largement insuffisante. Pour le dire en deux mots, la critique 68-art de l'État et des institutions rejoint, fait écho, à la critique de l'interventionnisme étatique dans le domaine économique, à un moment donné. Je situe évidemment ce tournant autour de 70-80. Plus fondamentalement, je pense que l'affirmation d'une autonomie du sujet érigé en absolu fait écho en même temps la représentation, d'ailleurs largement imaginaire du reste, d'un marché qui serait débarrassé de toute entrave. Là, il y a un phénomène de rencontre et de croisement qui me paraît important. Si l'on ne prend pas en compte cette genèse, je pense que la tentation est grande de parler de simplement de trahison des élites, de trahison y compris de la gauche. Alors que la situation me paraît beaucoup plus complexe que ça, comme je viens d'indiquer, avec une surenchère, évidemment, dans la critique auquel se livrent l'extrême-gauche, mais y compris l'extrême-droite, parce que j'étais très frappé chez Marine Le Pen, on en rajoute un kilo, hyper, alors c'est l'hyper-capitalisme, l'hyper-libéralisme, l'hyper-logique financière, c'est un effet de génération avec le mot hyper, si vous voulez, mais bon, c'est la concurrence à celui qui en rajoute la cause de tous nos maux. Je ne dis pas du tout que c'est un élément essentiel, mais la cause de tous nos maux est à chercher dans le domaine économique. En fait, à mon avis, elle est dans la rencontre d'un aspect que j'appellerais volontiers historique et culturel avec cette dimension-là. Si l'on ne comprend pas ça, on peut penser, et c'est mon deuxième point, que tout peut recommencer comme avant, d'une certaine façon. S'il y a trahison des élites, s'il y a une espèce de parenthèse sociale qui est liée simplement à la logique libérale, aujourd'hui, on voit d'ailleurs revenir en force des thématiques qu'on pouvait croire oublier. Encore une fois, il ne s'agit pas de la critique, y compris de ce que vous faites à juste titre, mais par exemple l'idée que finalement, l'histoire que nous avons vécue sur les 30 dernières années n'a été qu'une parenthèse avec ce libéralisme et qu'on peut reprendre la bonne vieille lutte de classe comme avant. Je tiens à préciser que les classes existent, que d'une certaine façon elles rentrent en contradiction, mais ce que je veux souligner, c'est cette vague d'incompréhension sur ce qui s'est passé en profondeur et qui n'est pas simplement de la logique économique, et ça me paraît, pour dire les choses très claires, ce qui se manifeste à travers la candidature Mélenchon. On voit ressurgir beaucoup d'ex, beaucoup de gens qui, à mon avis, n'ont pas bien compris ce qui s'est passé, avec l'idée que ça n'a été qu'une parenthèse et que le communisme est un bel idéal qu'on peut reprendre comme avant, comme si le XXe siècle n'avait pas existé, et avec une nostalgie que je crois très grande. Je mets à part les propositions, pour en discuter dans le débat éventuellement, les propositions de Mélenchon, hein, mais pour comprendre ça. Avec une dimension de catharsis, parce que ça fait quand même du bien quand on voit les autres candidats dans le domaine médiatique et puis leurs faux fuyants, etc. Là, on a quelque chose d'authentique, surtout pour des jeunes générations qui n'ont pas connu la période antérieure. Une fois ce moment passé, je pense au rassemblement de la Bastille qui m'a beaucoup frappé, où tout d'un coup est ressorti avec une, je ne dirais pas une mise en scène, mais tout d'un coup, la vieille histoire est revenue. C'est creuse, la vieille taupe est toujours là, pour les classiques qui connaissent un peu le trotskisme. Et finalement, ça a été une espèce de... On peut recommencer, il y a eu trahison. Je pense que ce qui est difficile, de mon point de vue, à comprendre et qu'il faut affronter, c'est que ce n'est pas simplement la logique libérale, c'est la rencontre de la logique libérale avec un nouvel éthos de la société et une nouvelle figure de l'individu. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à déraciner que simplement, encore une fois, appeler simplement à la lutte, en célébrant la Commune, une guerre civile en France, etc. Donc il y avait une espèce de bouffée, moi j'ai pris ça un peu dans la figure. Tiens, c'est reparti comme avant. Je crois que, personnellement, on peut tout à fait en discuter, c'est une impasse, et que le moment fusionnel étant passé, ça va se heurter à un phénomène typique de la société démocratique, les vacances. C'est-à-dire l'insurrection citoyenne qui doit arriver incessamment sous peu dans le moment de la fusion risque de se heurter au mois de juillet-août, où les citoyens, et sur le modèle des sans-culottes, vont avoir beaucoup plus de difficultés pour lancer cette insurrection citoyenne. Donc là aussi, je pense qu'on est un peu dans la contradiction. Ce qui me frappe, autre point de ce nouvel air du temps, c'est comment ce schéma, j'allais dire, dogmatique économique, et encore une fois, il a sa place, se combine en même temps avec un nouvel air du temps marqué par trois points clés, qui sont l'émotion, la morale, mais appelons ça le moralisme, et la plainte en justice. C'est très frappant de voir comment, finalement, l'émotion, la dénonciation, y compris victimaire, remplace véritablement la compréhension et l'analyse. Je ne dis pas l'analyse économique, mais l'analyse de la situation historique très particulière dans laquelle nous sommes. Et je dirais que cette dénonciation moralisatrice et cette plainte en justice, enfin sans aller jusqu'à la plainte en justice, il y a un phénomène qui accélère, démultiplie cette dimension-là, c'est la dimension médiatique. C'est relayé, démultiplié, amplifié par les médias, avec la grande machinerie des moyens audiovisuels, où il suffit d'exprimer un témoignage choc, de donner des images choc avec des effets véritablement de sidération. On pourrait parler de ce qui s'est passé très récemment, qui parlent en elles-mêmes et qui sont véritablement l'authenticité de la chose, ce qui permet aucun recul réflexif et critique pour comprendre ce qui s'est passé. Et j'ajouterai une partie des journalistes qui ont franchi le pas, c'est-à-dire qui se considèrent ouvertement comme des militants. Enfin, qui, c'est même plus le commentaire, la distinction du commentaire et des faits, pas dans tous les médias, mais dans une bonne partie des médias, ce sont des journalistes qui donnent carrément leur point de vue, d'ailleurs qui se mettent en scène, vous n'avez qu'à les regarder, ils sont affichés partout. Sur les photos, c'est eux qu'on met, c'est pas les gens qu'on interviewe, et qui se font véritablement les justiciers. Moi, j'en entends quasiment tous les matins. Et donc, le recul, là aussi, la déontologie pour une partie de ces journalistes est mise de côté. J'y rajouterai un point nouveau, qui n'est pas simplement les nouveaux médias, qui sont les nouveaux moyens de communication aux mains des individus. Je trouve que les politiques devraient regarder à deux fois avant de jouer avec ça. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, vous savez, Twitter, trois notes, la délibération en direct, ça a commencé d'ailleurs avec les primaires du Parti Socialiste, où chaque candidat avait son logiciel et sa liste, et renvoyé immédiatement dans des cafés spécialisés, où chacun pouvait noter en disant « belle réplique » et « vas-y », etc. Bon, ça a commencé là, et ça s'est multiplié. Chaque candidat a son... Moi, ça me frappe beaucoup, j'ai regardé ça de près, c'est véritablement un phénomène assez nouveau. Pourquoi je dis qu'il devrait regarder à deux fois avant de dire la démocratie participative et citoyenne ? C'est parce que ça peut se retourner très vite contre eux. Et je ne peux m'empêcher de penser, évidemment, aux sans-culottes. Sans-culottes avec ces nouveaux outils, ils n'ont pas de pic, mais bon, c'est quand même le petit outil informatique. Ça veut dire quoi ? Imaginons une société, on n'en est pas là, où on légiférerait, on discuterait, où les politiques, où l'Assemblée nationale, par exemple, vous savez déjà, serait sans arrêt en transparence totale, immédiate, avec ce qui se passe, et avec des gens qui passeraient leur temps à dire « celui-là, eh bien, il est bon, celui-là a dit ça, etc. » et ça circule. Et je vous signale qu'on n'est pas loin du tout, quand vous regardez le fonctionnement de la campagne, de ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, le pays peut devenir véritablement, partir en spirale dans des débats qui n'en finissent pas, et avec des aspects qui m'ont rappelé, excusez-moi la référence, je tiens à préciser tout de suite que je ne suis pas royaliste, mais comment le roi, on a fait voter, on a fini par le guillotiner à une voix près, c'est parce que les sans-culottes en question étaient dans les travées, ou investissaient l'Assemblée la constituante, et disait « voilà, vous votez bien ou pas ». Et celui-là, on le repérait, on pouvait d'ailleurs aller le reprendre après, à la sortie, pour lui dire « maintenant, tu vas revoter, tu vas bien voter ». Je pousse à l'extrême, je ne dis pas que c'est aujourd'hui, il n'y a que ça. Mais c'est une tendance réelle qui, à terme, les politiques devraient se méfier de ça. Non seulement ils ne s'en méfient pas, mais ils font du surf sur cette évolution problématique. J'y rajouterai enfin un dernier point, c'est que ça donne un climat qui me semble de méfiance dans la société. Alors, je pense qu'il y a une grande difficulté, à côté de tout ça, à aborder un autre phénomène, qui est un phénomène de déstructuration identitaire pour d'autres catégories sociales, où la dimension économique, le chômage, donne lieu à des phénomènes tout à fait nouveaux, que de façon polémique j'appelle la déglingue, qui n'est pas la pauvreté ancienne qu'on a connue, ou la misère simplement économico-sociale, où la misère économico-sociale se paie d'une déstructuration identitaire extrêmement forte. Et d'individus qui sont véritablement en situation d'errance, sur lequel d'ailleurs peuvent se greffer, comme ça arrive, on pourra en discuter, à un moment donné, les idéologies les plus rétrogrades, y compris des formes de fanatisme. Je crois que, voilà quelques points de cet éthos de la société. Je trouve que les politiques, et pas simplement les politiques, ont beaucoup de difficultés à affronter ces questions-là. Globalement, beaucoup d'entre eux, on fait du surf sur cette évolution problématique dans un intérêt à court terme électoral. Et que le problème, c'est une fois les élections passées, comment gouverner, pas simplement avec des idées du contenu, là, on pourrait discuter de ces propositions, mais avec cet ethos-là, avec cet état de la société, je pense que ça sera difficile. Alors, dernier point, je vais passer la parole à mon voisin. Peut-être, effectivement, sommes-nous à la fin d'un cycle historique. On voit bien que dans la société, beaucoup de gens disent assez. Il y en a, mais on ne sait pas comment tout ça peut se traduire positivement. On voit bien qu'il y a une espèce de ras-le-bol, pour reprendre une expression bateau, du cirque politico-médiatique, et en même temps, que faire? Comment on recrée une dynamique historique? Alors, on voit bien comment aussi, du point de vue de politique, il y a des recompositions qui peuvent s'amorcer. Moi, j'insisterai sur un point au sein même de la société. Je pense qu'il y a une véritable reconstruction avec la question centrale de, j'ai cité par exemple, cette stigmatisation dans l'espace public, la question des libertés intellectuelles. C'est-à-dire on ne reconstruira pas, y compris du côté de la société, si il n'y a pas une liberté intellectuelle en disant « il n'y a pas de sujet tabou ». Et donc, on doit pouvoir en discuter librement. S'il n'y a pas des lieux, et on sait qu'ils existent de façon dispersée, que ce soit des revues, bon, il y a représentants du débat, ou que ce soit politique autrement, mais d'autres clubs hein, qui existent et qui ne rentrent pas dans cette logique. Je pense que dans les périodes qui viennent, la question de la défense des libertés intellectuelles, pour moi, est une des batailles qu'on risque d'avoir par rapport à cette espèce de d'essoreuse idée auxquelles nous avons affaire, à travers la dénonciation victimaire, la morale, l'émotion, et je dirais les grands médias audiovisuels qui font partir les débats en vrille. C'est-à-dire il est de plus en plus difficile, peut-être c'est un moment particulier parce que c'est les élections présidentielles, mais d'avoir un débat avec un recul en examinant les notions. Les mots même signent un camp d'emblée. C'est peut-être parce que nous sommes dans la période électorale, je pense que c'est plus grave que ça.
Paul Thibault.
J'espère que ça va s'enchaîner, du moins en gros, grossièrement. J'observe quand même qu'on passe de l'infrastructure à la superstructure, voilà. Contrairement à ce qui devrait se passer canoniquement. Mais enfin bon, ça ne m'offense pas particulièrement. Bien, donc je dois vous parler de la laïcité, étant entendu que laïcité désigne plutôt que seulement la question du rapport du politique et du religieux, la question de l'éthos commun, qui sont d'ailleurs des questions absolument liées, parce que si on veut organiser une coexistence des religions, coexistence en quoi, si vous voulez, la question du commun entre elles, évidemment, se pose nécessairement. Mais la question des religions, en tout cas, au premier degré, se pose très clairement, c'est évident. On en voit des symptômes, y compris dans cette campagne électorale. Par exemple, François Hollande a proposé de constitutionnaliser la loi de 1905, comme vous le savez. Proposition absolument dérisoire, parce que la loi de 1905 est une loi d'organisation des cultes, du régime des cultes, c'est-à-dire qui prend la question par le plus petit bout possible. D'ailleurs, ils avaient bien raison à l'époque de le faire, mais constitutionnaliser ça, c'est ne vouloir voir que superstructure, alors vraiment l'apparence du problème, et non pas toutes les questions fondamentales qui sont immergées et qui sont indissociables au fond de la laïcité. Mais ça, c'est très important de voir que l'on préfère évidemment programmer sur le superficiel plutôt que s'interroger sur ce qui est en dessous, si vous voulez. On peut prendre aussi d'autres exemples antérieurs que les lois sur la burqa. La loi sur la burqa, je suis tout à fait favorable, la loi sur la burqa, mais on a été incapable d'argumenter correctement, si vous voulez, proprement, les lois sur la burqa, la liberté de la femme, etc. La stigmatisation, bien sûr, est arrivée, parce que stigmatisation est un mot obligatoire, n'est-ce pas, maintenant. Mais la question tout simple de l'échange des visages, enfin, qui est important entre socialité, qui est un point fondamental, nous le savons tous les jours en descendant dans la rue et même avant de descendre dans la rue, si vous voulez, est une chose qui n'a pas pu être dite. Alors ça, c'est, je trouve ça confondant, si vous voulez, sur la façon dont des questions, c'est une question d'éthique, bon, je ne citerai pas Lévinas, évidente et qui pourtant ne peut pas s'exprimer. Alors c'est ça qui est... Donc on a une question urgente, mais une question dont on n'arrive pas à formuler les dimensions, la signification. Donc, L'hétérogénéité religieuse, on fait donc semblant, en vertu de ce principe de superficialité, si vous voulez, qu'elle ne concerne que les religions allogènes, si vous voulez, qui viennent d'ailleurs, et qu'il y a simplement un ajustement par rapport à la bonne vieille laïcité que nous connaissons tous et que tout le monde célèbre, tout le monde, y compris d'ailleurs les islamistes, hein, faut pas faire d'illusions, dans un sens très, très spécial, tout le monde célèbre en cœur la laïcité sans vouloir s'interroger sur les déterminants, si vous voulez, qui l'ont mis en avant et les raisons de sa crise, de sa crise actuelle. Si vous voulez. Et en définitive, à travers la laïcité, évidemment, l'exemple navrant que l'on vient d'avoir à Toulouse le montre. Enfin bon, la baisse des capacités intégratives de notre société est quand même quelque chose d'affligeant et de flagrant, si vous voulez, sur quoi il faudrait se poser quand même quelques questions. Alors c'est une question, ça qui est une question centrale. La capacité intégrative ne concerne pas simplement les minorités, elle concerne surtout la majorité, qu'il s'agit de faire vivre en tant que capacité de s'agréger des arrivants, ce qui évidemment est apparemment de moins en moins le cas. Donc, cette superficialité, elle s'exprime en particulier par l'idée d'une laïcité qui va bien, qui progresse, si vous voulez, puisque la pratique religieuse, chrétienne notamment, évidemment, diminue, si vous voulez. C'est-à-dire que la peau des religions, la laïcité, du moins les gens qui sont les plus investis dans le camp laïque, croient qu'ils tiennent le bon bout, si vous voulez, que ça finira bien par disparaître, ce cauchemar antique, si vous voulez, la situation, la crise incontestable du christianisme, qui n'est pas mon sujet, hein, si vous voulez, peut donner une certaine apparence de vérité à cette opinion de ce qu'on a une laïcité triomphante. L'ennuyeux, c'est que le mouvement, justement, de perte d'influence du christianisme, qui est lié justement au socle central, enfin, donc à la capacité intégrative, évidemment, le recul du religieux diminue cette capacité de la société elle-même, si vous voulez, d'intégrer des nouveaux venus. Donc, en définitive, la laïcité elle-même est affaiblie par le triomphe de la laïcité, si vous voulez. C'est ça le problème, parce que le triomphe de la laïcité, c'est surtout un triomphe contre elle-même, donc contre la culture d'où elle vient. Et c'est ça tout le paradoxe que probablement les laïcs n'osent pas affronter. Alors on voit effectivement des trucs, des problèmes marginaux. On voit encore des gens qui s'indignent presque parce que le calendrier reste en gros un calendrier chrétien, n'est-ce pas, la semaine, etc. Vous savez d'où ça vient, mon pauvre ami, etc. Bon, d'accord. On a essayé de changer ça en décade, vous savez, il y a longtemps. Ça n'a pas marché. Bon, peu importe la question, mais on n'en finit pas. Il y a des gens bons qui disent oui, par exemple, la question des églises sont effectivement à la disposition des évêchés. Bon, c'est pas normal. Il y a toujours des gens qui trouvent de la laïcité à rajouter. Bon, d'accord, admettons, mais le problème, c'est que cette laïcité, la formule chimique, si on peut dire, de la société, et en même temps. Elle progresse en affaiblissant la société dont elle est et dont elle est une expression, si vous voulez. Alors c'est la laïcité, l'appartenance collective en général, qui donc est mise en cause par le progrès d'une certaine forme de laïcité, une crise de l'aimantation vers le commun, en définitive, qui affecte très clairement notre société. Évidemment, cette crise de l'orientation vers le commun provoque de l'autre côté une déformation des religions minoritaires. Alors, la question actuelle, c'est qu'on peut dire qu'il y a trop de religions où on ne voudrait pas en voir, et il n'y en a pas assez où on voudrait en voir. C'est au fond ce que pensent beaucoup de gens, si vous voulez. Une religion qui consoliderait le socle commun, tout le monde en voudrait, il n'y en a pas beaucoup. Des religions qui se définissent contre le socle commun, qui s'affirment de plus en plus, si vous voulez, identitairement et communautairement, ça, on en a trop. Alors, c'est tout le paradoxe devant lequel on est, et qui ne concerne pas du tout seulement les musulmans. Enfin, il est évident que le judaïsme français a changé son fusil d'épaule depuis longtemps, et ça devient de plus en plus clair, si vous voulez. C'est-à-dire que le judaïsme français était au fond de nature et de comportement libéral jusque dans les années 50, 60, etc. Et que maintenant, enfin, pour les juifs, les vrais juifs sont les juifs orthodoxes et même hyper orthodoxes. Enfin, ils ne sont pas nécessairement majoritaires, mais ils ont pris en otage l'identité juive, et c'est dans les affaires de Kashrout, par exemple, qui s'envenient, mais qui sont, à mon avis, importantes et assez inquiétantes, si vous voulez. C'est eux qui donnent le ton, si vous voulez. C'est ça. Alors, donc, on a des religions qui se définissent par l'absence de compromis, d'ailleurs, au nom de la laïcité, d'un certain côté, parce que la laïcité pauvrement conçue, c'est les religions, il faut les laisser vivre, si vous voulez. Alors, sous-entendu, dans la tête des laïcs, en attendant qu'elles crèvent, si vous voulez, ça de leur belle mort, mais ça, ils ne savent pas y faire, si vous voulez, quand il s'agit d'autres religions que le christianisme. Mais en attendant, si bien que l'espace qui leur est réservé, c'est elles-mêmes qu'ils définissent. C'est ça la question qui se pose, si vous voulez. La laïcité, le rapport de la laïcité avec du catholicisme n'a pas été de cette nature-là. Évidemment, la liste des faits d'obligation, comme disait mon catéchisme, si vous voulez, elle a été négociée avec l'empereur. Enfin, ça date de Napoléon. C'était pas dans l'Évangile, et c'est pas l'Église catholique qui unilatéralement l'a déterminé. Enfin, la Saint-Joseph est chômée en Italie, elle n'est pas en France, si vous voulez, etc. On peut prendre des tas d'exemples comme ça. La ritualité, si vous voulez, ne parlons pas de la foi, la ritualité chrétienne catholique, elle est déterminée par négociation entre le politique et le religieux. Alors, c'est les gens qui vous disent que, comme j'ai entendu à propos de la manière d'abattre les vaches cachères, que c'est une question de révélation. Moi, ça m'a fait... Oui, mais ça l'ai entendu, et pas de la bouche de n'importe qui. Et c'est une chose qui m'a fait littéralement froid dans le dos, parce que c'est un homme qui se croyait obligé de le dire. C'est ça qui est embêtant, vous comprenez. Donc il y avait véritablement un blocage de ce côté-là. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à des choses comme ça? C'est quand même une question. La cacheroute n'était pas aussi stricte. Enfin bon, qu'il y en ait qui ne bouffent pas de cochon et de lapin, c'est une chose que nous savons depuis longtemps, bien que moi je me pose la question de savoir pourquoi Noé a admis ces animaux dans l'arche, mais enfin bon, mais ça, on aurait supprimé le problème à la racine, là, si on avait eu le bon sens de les laisser se noyer, ces imbéciles. En plus, qu'à peine sorti de l'arche, excusez-moi de citer la Genèse, en plus en m'en moquant, ce qui n'est pas bien quand même, ce qui n'est pas mon habitude, du tout. Aussitôt sorti, l'Éternel dit à Noé, tu mangeras tout ce qui court sur la terre, mais sans prendre le sang, parce que le sang, c'est la vie. Alors là, c'est là qu'on a quelque chose qui est important, je dirais, de symboliquement très significatif, si vous voulez. Mais alors, de ce commandement qui n'a rien de dérisoire, absolument rien, est-ce qu'on doit tirer une prescription stricte, si vous voulez, qui crée des séparations dans la commensalité, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait embêtant pour la vie collective. Donc on a une laïcité complètement déconcertée, si vous voulez, qui est prise à l'envers, parce que notamment pour les musulmans, c'est la liste des obligations opposables à l'État. Si vous voulez, la laïcité, c'est ça pour un bon musulman, ce qu'elle est. La laïcité, c'est laissez-moi être musulman comme j'ai décidé d'être musulman. Bon, ça c'est... Alors comment on est arrivé à cette perversion, si vous voulez, à cette mise à l'envers? Alors bon, c'est la question que je me pose. Je dirais que par contraste, nous sortons, il faut y en prendre conscience, d'une époque heureuse de la laïcité, véritablement heureuse, une laïcité qu'on a pu dire inclusive, qui a, en gros, si vous voulez, entre la sortie de la guerre de 14 et surtout la condamnation de l'action française par le pape, qui est un événement vraiment central de notre histoire, jusqu'en dans les années 60 à peu près, si vous voulez, a connu son âge d'or. C'est d'ailleurs un apaisement de la guerre des dieux, comme disait un sociologue, si vous voulez, au début de la guerre des dieux, c'est au début de la Troisième République, si vous voulez. Il y en a qui sont pour la religion du progrès, et les autres pour la religion de la tradition, dont le christianisme fait partie de toute évidence. Mais après, en gros, la guerre de 14, vous avez d'un certain côté un affaiblissement de... Vous avez, bon, excusez-moi, entre ces deux adversaires, il y a une connexion très profonde, tout de même. En particulier, on peut dire qu'en gros, la laïcité promet la réalisation d'une partie du programme du christianisme. Alors, rien n'est plus symptomatique de ce côté-là que l'opposition entre la charité et la justice. La charité promet quelque chose aux pauvres, d'une façon qu'on peut dire aléatoire, à condition qu'ils soient gentils, etc. Et une promesse non garantie. La justice sociale, la justice solidariste, c'est la garantie de ce que la charité chrétienne promet vainement la plupart du temps, ou du moins trop souvent. Donc, entre ces deux adversaires, vous avez quand même un recouvrement considérable, si vous voulez, à substance. De l'éthique sociale est quand même très proche, si vous voulez, même si la réalisation pose problème. Mais alors, évidemment, dans la réalisation de la justice, qui est la croyance républicaine et laïque normale, si vous voulez, elle s'affaiblit après la guerre de 1914, la croyance au progrès comme bloc, si vous voulez, le scientifique allant avec le social et le moral, enfin, en gros, quoi, Victor Hugo, tout ce monde-là, toute cette grande, si vous voulez, religion du progrès, si vous voulez, est quelque chose qui est complètement ébranlé au moment où, du côté catholique, à la suite de l'affaire Dreyfus et de réaménagement interne important, suscité ou du moins fortement encouragé à ce moment-là par le Vatican et Pion, si vous voulez, vous avez évidemment une vitalité associative qui se manifeste, enfin très considérable. L'action catholique, les syndicats chrétiens, etc., les partis chrétiens, tout ce que vous voudrez, qui entre dans ce jeu qui est le même et celui de la réalisation de la justice. Alors, vous avez les deux. Ça se termine dans une situation, au fond, de peut-être des années 50, etc., qui est plutôt celle d'une opposition, certainement, mais une opposition qui se résout potentiellement et réellement en une sorte de collaboration, si vous voulez, pour faire exister la justice dans la société. Alors, c'est-à-dire, vous avez un christianisme, un catholicisme plus précisément, qui a accepté son désétablissement, qui a une vitalité associative réelle, et de l'autre côté, un ébranlement de la région du progrès, et au fond, on est en train de... La société, l'ordre social, la morale sociale, la justice sociale sont un chantier commun. Au fond, probablement, le symbole de cette période, ce sont tout simplement les lois de Bray sur l'enseignement qui ont eu une telle importance. Parce que l'idée que la tradition catholique, puisqu'il s'agit en gros d'écoles catholiques quand même, surtout à l'époque, encore maintenant, mais maintenant il y en a d'autres qui arrivent dans le circuit, et c'est absolument inévitable, évidemment, que la tradition catholique puisse participer de l'éducation nationale, si vous voulez, est une nouveauté qui montre bien qu'il y a une collaboration qui est reconnue. Et cette loi, on n'a pas réussi à l'ébranler. Enfin, pour des raisons d'ailleurs qu'on pourrait... des raisons sociales qui ne sont pas toutes pures. Ça, c'est une chose qui est très claire. Mais en 84, les socialistes se sont cassés les dents là-dessus. Et depuis ce temps-là, cette loi est devenue un fondement de la... à ce moment de la vie commune. Alors, la situation présente, si vous voulez, est tout opposée à celle-là. Et elle est, je pense que le changement, c'est venu de l'intérieur de la société. Ça rejoint certaines choses qu'a dit Jean-Pierre à l'instant. Vous avez une sorte de radicalisation dans la ligne de la laïcité, de la culture de l'autonomie. Donc un affaissement du consensus moral sur quoi reposait cet équilibre entre les deux traditions nationales qui a été l'époque de la laïcité intégrative, si vous voulez. Alors on a effectivement une mise en cause de toutes les autorités et en particulier de toutes les normes implicites qui constituent le fondement de la société. Il y a ces fameuses normes implicites que d'ailleurs la sociologie poursuit toujours, comme si on pouvait en venir à bout. Alors l'idée, évidemment, c'est qu'il y a un horizon, c'est l'autonomie personnelle, c'est à chacun de choisir, enfin, si vous voulez, si vous regardez les discussions sur la bioéthique, par exemple, qui sont révélatrices, très importantes, on arrive toujours, effectivement, à l'idée, après tout, c'est à chacun de choisir, puisqu'on ne sait pas, on ne peut pas dire scientifiquement ce qu'il en est, etc. Et les conséquences à terme sont toujours complètement évacués. Alors, si on ne parie pas sur une forme de société avant de savoir scientifiquement ce qu'il en est, on n'a aucune forme de société. Enfin, ça, si vous voulez, alors on dit toujours, par exemple, quand on discute de ça, il y a toujours quelqu'un qui vous dit à table, moi j'ai des amis, ils sont homo, ils élèvent des enfants, ça se passe très bien, etc. Et vous ne pouvez rien dire, parce que vous ne savez pas comment ça se passe, et eux non plus d'ailleurs, mais bon. mais on suppose, poliment, on ne peut rien dire, si vous voulez. Ça, c'est absolument évident. Mais les effets à terme, évidemment, ils sont oubliés. À propos de l'euthanasie, par contre, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que en Belgique, où ils sont en avance sur nous, n'est-ce pas, comme on le sait, sur ce point-là, on a observé, c'est une étude de l'Université libre de Bruxelles, attention, pas de Louvain, attention, hein, c'est pas les curés qui ont fait ça, prouvant que des euthanasies sauvages, il y en a plus depuis qu'on a libéralisé l'euthanasie. C'est-à-dire que l'effet sociétal d'autorisation est plus important que l'effet particulier, si vous voulez, de faciliter la vie. Moi, je n'ai pas connu des situations de fin de vie dramatique et je n'ai pas de... quand on m'en parle, je ne peux pas me prononcer, si vous voulez. Sur la situation, alors justement, le problème, c'est qu'on ramène la discussion sur la nécessité de légiférer à une discussion sur les situations personnelles. Vous voyez, alors, c'est absolument impossible de le faire. Et c'est ça, la société, disons, hyper laïque, ou plutôt déglinguée, je ne sais pas comment il faut dire, ou alors de laïcité ruinée. On ne sait pas trop s'il y a plein de laïcité ou s'il n'y en a plus du tout, si vous voulez. C'est ça la question où on arrive, si vous voulez. Bon, je conclue simplement à dire que nous sommes dans une situation, au fond, de dogmatisme latent par extinction des questions ultimes sur l'humanité. Enfin bon, moi, certaines personnes qui m'ont un peu formé, qui ont formé aussi mon voisin de gauche et aussi mon voisin de droite d'ailleurs, comme Castoriadis ou Lefort, disaient l'un que l'humanité est un sans fond, ça c'est le sans fond de Casto, qui revient si souvent d'ailleurs, quelquefois, d'une façon un peu répétitive, si vous voulez, me semble-t-il, mais il faudrait y aller voir probablement de plus près, aller y voir à nouveau, si vous voulez, et l'indétermination démocratique de Lefort. Alors, moi, ces formules sont vraies, si vous voulez, vraies, si vous voulez. Simplement, elles n'interdisent pas de s'interroger sur ce qui est derrière, et elles n'interdisent pas aux sociétés de prendre parti sur une forme d'humanité, bien que la définition ultime de l'humanité, comme disait l'autre, seul un Dieu pourrait la donner, si vous voulez. Bon, alors donc c'est là qu'on est dans le... Est-ce qu'on a une laïcité qui est incapable de se poser des questions ou qui est encore capable de s'en poser, et à défaut de pouvoir nous unir sur une vision sociale comme à l'époque de la laïcité heureuse et intégrative, si vous voulez, dont je vous ai parlé, c'est au fond partager des questions qui deviendrait effectivement l'horizon commun. Alors, pour partager des questions, il faut d'abord, et il y a des questions très pratiques, il faut d'abord organiser un vivre ensemble. C'est pourquoi les questions de bouffer ensemble. Le plus possible, pas toujours, parce que on mange chez soi aussi, on a parfaitement le droit de manger cachère avec les gens qu'on invite, et puis ou halal, si vous voulez, mais il y a quand même toute une vie collective en dehors de ça, et c'est une chose extrêmement importante. Enfin, excusez-moi de faire de l'apologétique chrétienne là un instant, je dirais que la question du manger ensemble, elle est initiale dans le christianisme. Ça a commencé par ça, enfin, ça commence. Saint Paul, il s'engueule avec Saint Pierre, d'après l'épître aux Galates, sur la bouffe commune à Antioche, si vous voulez. C'est pas une question dérisoire. Précédemment, Saint Pierre avait rompu à propos d'un centurion, si vous voulez, l'impératif de ne manger qu'avec les siens, si vous voulez, etc. Enfin, et Jésus de Nazareth lui-même, il avait des tendances laxistes sur ce point-là, ce qui était mal vu dans son. C'est pourquoi c'est une question qui n'a rien de dérisoire. Et je pense effectivement que l'idée, est-ce qu'on peut faire admettre aux religions, à toutes les religions, qu'il y a des nécessités, c'est une nécessité morale, humaine, fondamentale, que d'organiser de la vie sociale, qui permet elle-même de faire société, si vous voulez, est nécessaire pour pouvoir partager des interrogations, si vous voulez. Alors, du côté des laïcs, effectivement, je termine là, du côté, ils ont un passage à faire qui me paraît tout à fait important, c'est que l'humanité est faite d'inconnus, et sur l'inconnu, les religions ont quelque chose à dire qui n'est pas injustifié, et même il est même un devoir de les écouter, si vous voulez. Quand j'entends au poste de radio qui m'énerve autant que Jean-Pierre Le Goff tous les matins, si vous voulez, il y a des gens qui pensent différemment, mais c'est pour des raisons religieuses, sous-entendu shut up, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, si vous voulez, je trouve qu'on est dans la barbarie. Littéralement dans la barbarie. On sort de l'humanité, parce que si l'humanité est plus une question collective, soutenue collectivement, on arrive dans le rien du tout. Alors, on est sorti de l'humanité par le totalitarisme. On peut en sortir par l'autre bout, si vous voulez. Et c'est peut-être actuellement ce qui nous menace.
Marcel Gaucher.
Je voudrais développer rapidement, donc, puisque c'est le genre, deux propositions. La crise est aussi une crise de l'Europe telle qu'elle s'est construite. Et là, la crise a un effet sous-jacent de révélation et de mise en accusation même du cadre à l'intérieur duquel nous nous inscrivons. Deuxième proposition, l'issue à la crise exige impérativement de sortir du débat entre souverainistes et européistes, disons pour être englobé large, qui est l'état actuel de la discussion. Nous sommes dans l'obligation de remettre le problème entièrement à plat, ce qui est une tâche aussi difficile, si ce n'est plus difficile, encore que de réintroduire le protectionnisme dans le débat public. La campagne électorale française a de ce point de vue un effet de démonstration. Nous atteignons le point critique. L'évitement consensuel du problème européen entre les deux candidats est ce qui donne à la campagne son caractère de théâtre d'ombre dérisoire. La mise en scène des désaccords entre les deux principaux candidats, je m'en tiens à eux, s'opère de façon flagrante sur fond d'accords tacites pour ne pas remettre en question le cadre qui va déterminer, in fine, les politiques qui seront effectivement suivies. Et de ce point de vue, les effets de manche, ou bien sur la renégociation des accords de Schengen côté Sarkozy, ou les effets de manche sur la renégociation du traité de stabilité côté Hollande ne sont là, et je crois que vraiment peu de personnes s'y trompent, pour dissimuler le fait qu'on ne discute pas le cadre, qu'il est hors de la discussion en fonction de cette espèce de nouveau dogmatisme, en effet, à l'intérieur duquel la discussion publique se déroule désormais. Or, ce cadre consensuel fait haut de partout. La crise économique mondiale, la crise financière, la crise monétaire européenne, la crise des dettes souveraines ont eu pour effet de mettre en lumière l'inconsistance politique de la machinerie européenne. Mais aussi, et plus profondément encore, l'aberration suicidaire, je ne vois pas d'autre mot, de la philosophie sous-jacente qui a guidé les dirigeants européens depuis les années 1990. Le point de la chronologie est très important ici, mais je n'ai pas le temps d'y entrer, on pourra y revenir dans la discussion. Sans du tout prétendre épuiser le dossier qui est riche, trois points saillants, disons. La crise de l'euro, pour commencer. Comme toujours, la discussion technique, légitime en elle-même, dissimule les contre-coups politiques de cette crise. En l'occurrence, le contre-coup politique, c'est la délégitimation des élites qui ont fait les choix. C'était un mouvement déjà largement entamé, mais qui, je crois, reçoit dans la situation actuelle son coup de grâce. On s'aperçoit, c'est un phénomène diffus, mais dont on s'aperçoit qu'en fin de compte, ils sont les plus importants dans la vie politique. On s'aperçoit que les gouvernants qui ont monté le système, et en France, Mitterrand au premier chef, son grand promoteur, ne savaient tout simplement pas ce qu'ils faisaient. Le comble étant qu'ils se foutaient de savoir ce qu'ils faisaient. La prétendue grande stratégie qui a présidé à cet acte de fuite en avant, tout simplement, est aujourd'hui vraiment essentiel. Il faut essayer de comprendre précisément ce qui était en jeu. Je crois qu'il faut réécrire l'histoire de ce qui s'est passé au moment de la désagrégation du bloc soviétique et de la manière dont les dirigeants européens, les dirigeants français, au tout premier chef, les dirigeants français ont été, depuis les années 80, les promoteurs du monde à l'intérieur duquel nous vivons. C'est un point qui a été bien établi, par exemple, dans la sphère financière par un livre américain. La libéralisation financière mondiale est une affaire des Français. Ça ne s'est pas vu, mais c'est comme ça. Dans le cas précis, il faut essayer de comprendre comment les gens qui ont fait ces choix ont pu ne pas voir d'abord le problème de la protection commerciale, généralement tenue pour indispensable dans la création d'une zone monétaire, je n'y reviens pas après ce dont a parlé Franck de Dieu, le problème ensuite de la surévaluation de l'euro, qui est inscrit dans la philosophie de la Banque centrale, et qui fait que lorsqu'on nous parle aujourd'hui consensuellement de réindustrialisation européenne, on se demande de quoi on peut bien parler. Puisque, de fait, la monnaie unique condamne une partie, pas la totalité de l'Europe, mais une partie de l'Europe, à une désindustrialisation inexorable. Et enfin, la chose dont on parle le moins, parce que c'est ce qui n'intéresse pas les économistes, c'est tout simplement ça, on est dans l'ordre politique, le choix qui a été fait en même temps que l'euro de la concurrence interne fiscale entre les États membres. La concurrence fiscale, la concurrence par les normes, avec derrière une philosophie sous-jacente qu'il faut bien aller explorer et qui n'est autre que la remise en question programmée de l'État social. La concurrence fiscale était l'arme pour obliger les États à faire les réformes structurelles en matière en particulier de protection sociale qu'au final, ils n'ont pas fait pour des raisons politiques et pour des raisons de réticence devant les conséquences, et qui amène au déficit et aux dettes souveraines que nous dont parlait tout à l'heure Franck de Dieu. C'est l'ensemble de ce dossier auquel on ne peut pas échapper, et encore faudrait-il parler ici, en plus, de ce qui va avec le traité de Maastricht, on l'oublie toujours, l'Europe des régions, qui n'a pas été sans effet, y compris sur le plan financier et sur le plan de la dette publique, et la politique des fonds structurels européens qui a créé un engrenage dont il y aurait beaucoup à dire. Deuxième chose qui me semble avoir des effets de contre-coup ravageurs, la crise grecque. Parlons des conséquences politiques de la crise grecque sur l'image du fonctionnement des institutions européennes. Nous avons vu tout simplement dans cette affaire que l'Europe ne mérite pas le nom de construction politique. C'est pas une organisation politique au sens fort du mot. Le vrai problème européen, on l'a bien vu dans cette affaire, c'est pas un problème de déficit démocratique seulement, il existe, mais c'est bien plus profond, c'est que la construction elle-même n'est pas politique. Elle n'est pas politique en ceci que, tout simplement, elle ne permet pas de traiter par la délibération publique et des choix collectifs une affaire aussi grave. Il n'y a pas le mécanisme. Où est-ce qu'on a vu une autorité européenne intervenir pour... C'est quoi un système démocratique ? C'est un système de mise en discussion de ce qui arrive dans une collectivité politique sur la place publique, avec imputation de responsabilité et possibilité en conséquence de faire des choix qui vont éventuellement dans un sens opposé à celui qui a déjà été fait. Rien de tout cela n'est possible dans le cadre européen. C'est pas simplement que ça n'a pas eu lieu. C'est pas simplement que ni la Commission, ni le Parlement, ni la conférence intergouvernementale n'ont fait quoi que ce soit dans ce sens. C'est qu'il n'est pas possible qu'une chose pareille arrive. Autrement dit, on n'est pas dans une machine politique. On est dans un agrégat bureaucratique monté par une série d'États qui ne permet pas un processus politique. Et alors... Je crois que les effets en profondeur, c'est-à-dire l'exposition de cette carence centrale des institutions sur eux, ce qui n'est pas encore une opinion publique européenne, mais qui représente quand même un embryon de collectivité politique, malgré tout, solidarisé par les épreuves. C'est d'ailleurs là-dessus que compte un certain nombre de gens, des européistes lucides et bien qu'un peu désespérés, qui vous disent, bien sûr, rien de tout ça ne marche, mais justement, les gens vont s'en rendre compte et ça va provoquer le sursaut qui fait qu'on va à nouveau, fuite en avant, passer à la vitesse supérieure. On nous répète ça depuis...
Heureusement, ça ne marche pas.
Non. Mais on ne sait jamais, ça pourrait marcher, l'effet serait pire que la cause. Alors je crois que l'effet de délégitimation ici, encore une fois, est extrêmement important. Alors, troisième chose, et je ne m'étends pas sur le détail des circonstances qui est accablant quand on va voir de plus près, le dossier grec à lui seul relève d'un mélange de comédie invraisemblable et de tragédie politique, comme il en est peu d'exemples, quand on voit les conséquences pour les malheureux Grecs. Ce qui est en cause derrière tout ça, c'est la philosophie, c'est la philosophie européenne, c'est l'espèce de doctrine jamais formalisée, jamais explicitée, mais qu'on peut plutôt ramener à un état d'esprit des élites dirigeantes européennes dans un esprit assez consensuel. Ce que la crise a mis en lumière, c'est l'incapacité constitutive des Européens à définir une stratégie propre. Et cette incapacité constitutive, elle tient au fait qu'ils ont choisi de ne pas choisir. La philosophie profonde des élites européennes depuis les années 1990, après le tournant 1989-91, ça a été la démission. L'abdication, le ralliement inconditionnel aux principes de fonctionnement économique, politique et sociaux américains dans tous les domaines. C'est le ralliement au monde unipolaire. On est là-dedans on n'y est pas trop mal, on se débrouille avec ce qui nous vient d'ailleurs et qu'on essaye d'adapter, de transposer, de mettre tant bien que mal en cause. Le paradoxe, c'est que cette Europe qui n'a plus rien à dire, cette reddition inconditionnelle, se sont faites alors que l'Europe, prise en otage dans la guerre froide, avait encore une certaine capacité d'autonomie. La guerre froide obligeait les Européens à une certaine indépendance de raisonnement stratégique. La fin de la guerre froide les a privés de ce reste dans une situation où pourtant leur marge de manœuvre était relativement étroite entre les deux blocs. La conviction dernière des élites européennes, il suffit de les fréquenter un peu pour vite s'en apercevoir, c'est que l'Europe n'a plus rien à dire, en fait. La modernité, c'est l'Amérique, relayée par les différentes organisations internationales. Ce que nous avons de mieux à faire dans tous les domaines, et ça va très loin. Les politiques d'immigration européenne ont été en grande partie fabriquées à l'imitation d'une politique américaine sans absolument comprendre la différence des situations, avec les effets sympathiques que nous sommes à même de constater tous les jours. Le paradoxe à la sortie n'est pas moins considérable, puisque cette reddition inconditionnelle s'est faite pour des motifs idéologiques purement européens. C'est là où ce qui s'est passé dans les sociétés en Europe dans les années 80-90 est effectivement le point crucial, en fonction d'une utopie post-politique et post-nationale totalement éloignée de la philosophie américaine. En dépit de l'image d'Épinal, il n'y a pas de société plus politique et plus nationale que la société américaine, avec simplement d'autres mécanismes que ceux qui nous sont familiers. Les Européens ont été saisis au travers de la gouvernance européenne, d'une philosophie de l'économie comme lien de société, d'un rêve, ni plus ni moins, de sortie de l'histoire, en dernier lieu. À l'arrivée, on le voit là aussi mieux chaque jour, l'Europe est plus loin que jamais des États-Unis. Et l'incompréhension et la divergence entre les deux est plus grande qu'elle ne l'était, à coup sûrement, avant 1989, en dépit de toutes les chamailleries, de toutes les tensions qui pouvaient à ce moment-là régner, mais avec des principes communs. Tout simplement, les principes ont divergé entre deux univers civilisationnels qui sont sur des planètes différentes. L'imitation servile a conduit à une divergence de trajectoire. C'est une affaire de malentendus gigantesques ou de quiproquo qui fait de ce que nous vivons en Europe aujourd'hui une expérience idéologique qui, à beaucoup d'égards, ne me semble avoir rien à envier en matière d'onirisme aux années 1930. À ceci près que cet embardé est de signes opposés. Je rejoins là ce que disait Paul en concluant. Il n'y a plus d'une manière de délirer idéologiquement. Il n'y a pas que l'oppression intégrale, il y a aussi la démission complète devant les données élémentaires de la réalité de la vie des sociétés. J'ai oublié de le dire, mais au passage, j'y reviens quand même pour boucler ce premier point sur la délégitimation des institutions européennes, pour l'illustrer un peu concrètement. C'est tellement vrai que on peut dire que les institutions de l'Europe n'existent plus. Ce sont les États qui ont repris la main à la faveur de la crise. C'est quoi l'Europe aujourd'hui? C'est plus la Commission, vous entendez parler de M. Barroso, c'est plus le Parlement, dont un article extraordinaire du Monde, là, il y a quelques semaines, nous a appris qu'ils étaient très contents que personne ne s'intéresse à eux, parce que pendant ce temps-là, ils pouvaient magouiller tranquillement dans leur coin avec des choses qu'ils ne pourraient pas faire si jamais les peuples s'intéressaient à ce qu'ils fabriquent. C'est intéressant comme conception de la politique. Ce qui reste, eh bien, c'est même pas la conférence intergouvernementale à 27, c'est Mme Merkel et M. Sarkozy. Point final. Et si demain, la France dévisse du côté des pays du Sud, ce qui peut très bien lui arriver, parce qu'on est à la charnière des deux mondes. Eh bien, qu'est-ce qui restera ? Poser la question, c'est y répondre. Plus rien ne tient, autrement dit, dans cette affaire, que les intérêts noués autour de ce système institutionnel, des intérêts qui sont très considérables, hein, il est vrai. Et puis, par ailleurs, cette force historique toujours déterminante, il ne faut pas l'oublier, qui est la simple inertie. Ce qui existe continue d'exister et de faire semblant de fonctionner. On finit par se fatiguer de...
On appelle ça un acquis.
C'est les acquis. Il y a un acquis. Il y a un acquis, c'est indiscutable, mais un acquis qui n'a plus de légitimité, plus d'inspiration, plus de projet. Le projet étant de maintenir le projet. C'est dit explicitement tous les jours par les différents responsables. Pourquoi ? Ça, ce n'est pas la question. Le point est critique. Nous sommes, de ce point de vue, à une croisée des chemins, puisque l'économie et le parti de l'économie et le parti des économistes, ce n'est pas tout à fait le même d'ailleurs, est toujours là, avec sa philosophie de la fuite en avant, qui nous est quotidiennement martelée. Nous sommes en effet, c'est possible, devant un bond en avant fédéral au moment où les peuples n'y croient plus du tout. Ce coup-ci, nous sommes passés bien au-delà de ce qui était l'incertitude autour du traité européen. C'est une situation de divorce complet entre le sommet et la base. D'où l'urgence de réouvrir le dossier. Si nos sociétés politiques, la société française en particulier, sont encore capables de discussions politiques, nous avons là le test. Il y a de fortes raisons d'en douter, c'est vrai, nous en reparlerons certainement, mais nous sommes là aussi pour attester qu'il reste quelques lueurs sous la cendre. Et il faut bien essayer. Remarque préliminaire, il n'y a rien d'extraordinaire à cette situation. C'est là où cette espèce d'émotion devant un sacrilège qui saisit les augures dès qu'on aborde cette question me semble surréaliste. Comment ? Ce qui serait extraordinaire, c'est que cette mécanique construite dans les années 1950 à 6 pays, dans une situation géopolitique bien précise, la finalité de l'Europe, il faut le redire sans cesse, c'est de construire une capacité de résistance contre l'Union soviétique. Point final. Ça n'est que ça, au départ. Certes, la réconciliation des peuples, bien sûr, ce sont des moyens. La finalité, elle est géostratégique. Cette machine a connu toutes sortes de vicissitudes, je n'y reviens pas, mais cette histoire est réécrire. Je vous signale d'ailleurs, au passage, un très bon livre, à mon sens, même si je suis en désaccord avec la philosophie de l'auteur, c'est un effort... dont je ne vois pas l'équivalent, c'est le livre de Luc Van Middelaar, c'est un jeune politiste néerlandais qui se trouve être, il faut vivre, la plume de M. Van Rompuy, un livre qui s'appelle « Passage à l'Europe », mais qui apporte, du point de vue de la manière d'écrire l'histoire de l'Europe, un éclairage très intéressant. Encore une fois, ce qui serait extraordinaire, c'est que des mécanismes institutionnels définis dans ces conditions très particulières fonctionnent encore dans un monde de tout point différent. Alors, ça ne procède pas d'une volonté de continuité particulière. L'argument à toutes les étapes, quand des gens ont dit « mais vous vous rendez compte qu'il faudrait peut-être changer un peu les équilibres », l'argument c'est « ah mais si on rentre dans ce dossier, on ne fera rien ». Alors, au nom du fait qu'il ne faut pas y toucher, on a laissé aller la chose à volo. C'est un grand classique dans l'histoire. En dernier lieu, l'exemple des États-Unis est arrivé pour clore la discussion. On dit, mais eux aussi, ils sont construits progressivement. Alors, il y avait une Cour suprême, ça c'est très bien, donc il faut mettre le paquet sur la Cour de justice. Et puis, on ajoute de nouveaux États. Où est la question ? Ça se fait progressivement, il faut être patient. Comme si... les situations étaient en quelques points comparables. rien. Ça, c'est évidemment le point de départ de toute réflexion un peu sérieuse sur la question. S'il y fallait un test supplémentaire, j'observe au passage que nous avons là une démonstration en acte de ce que la philosophie marxiste ne marche pas. Parce que là, réellement, on a construit l'infrastructure. Pas comme en Union soviétique où on disait qu'on l'avait faite, mais elle n'y était pas. Là, elle y est. Nous avons l'infrastructure. Eh bien, on n'a pas pour autant la superstructure. Ça ne marche pas. C'est étrange, mais le reste ne suit pas. Il ne suit même pas du tout. Bon, je pense sur toutes sortes de choses qui seraient à prendre en compte. Mais simplement pour dire, c'est cette situation de décalage temporel qui est mise en crise par la crise qui la rend évidente. Alors, reste la question de ce qu'il faut faire. Une sur la base de ce constat négatif. Est-ce qu'il y a, la question pratique, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans tout ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ou est-ce qu'il faut en revenir au bon vieux cadre des États-nations? Même si c'est, bien entendu, dans un cadre beaucoup plus pacifié et plus coopératif qu'avant. À l'évidence, les termes de la discussion, sur le fond, se sont entièrement transformés. On peut tenir un certain nombre de points acquis. D'un côté, il n'y aura pas d'État-nation européen, ce qui était quand même le projet fédéraliste dans son intégralité primitive. Il n'y aura pas non plus d'État post-national en Europe. Et d'ailleurs, il n'y en aura nulle part, parce que l'évolution du monde depuis une bonne dizaine d'années montre assez clairement que nous sommes dans un monde d'État-nation qui se confirme comme tel chaque jour davantage. Et c'est peut-être une base importante à considérer pour un monde mieux organisé, puisque c'est ça l'enjeu du protectionnisme. C'est un problème d'organisation. Ce n'est pas un problème de protection mutuelle, en fait. Dans l'autre sens, les États-nations, et singulièrement les États-nations européens, se sont eux-mêmes transformés. L'Europe est là-dessus en avance, c'est normal. C'est elle qui a inventé la formule de l'État-nation. Il est parfaitement compréhensible qu'elle aille plus loin que les autres dans l'élaboration de ce que peut être une communauté d'États-nations. C'est ça, continuer l'invention européenne d'une manière originale. Les nations ont changé dans leur mode de composition, dans leur mode de relation et dans leur degré d'ouverture les unes sur les autres, d'une manière qui interdit, à mon sens, de camper sur les souverainetés, notion sur laquelle il y aurait lieu de vraiment revenir en détail, tellement effet écran. De ce point de vue, il y a un acquis européen, on peut bien l'accorder. Il y a une expérience qui a mis en lumière toute une série d'aspects très positifs dans les rapports qui peuvent s'établir dans les composantes d'un système d'État et dont il s'agit de reconnaître les bienfaits et le progrès du genre humain que ça représente. Là-dessus, je crois qu'il y a lieu d'avoir aucun doute. Mais les années qui nous séparent ou de la déclaration Schuman ou du traité de Rome doivent maintenant être regardées comme une préhistoire et une maturation confuse à laquelle il s'agit de donner des prolongements qui ne peuvent être que d'un autre ordre. C'est cette question qui doit être la nôtre, ce qui ne peut partir que d'une identification de l'Europe. Identification de l'Europe, elle est constituée d'États-nations, qui ne seront dépassées ni par un nouvel État-nation de rang supérieur, ni par un espace dit post-national, dont on ne voit vraiment pas en quoi il pourrait consister, et auquel d'ailleurs personne n'est candidat, pour finir, on s'en aperçoit. Mais pourquoi faire ? La question, c'est qu'est-ce que ces États-nations ont à faire ensemble ? Étant bien entendu qu'ils ont en effet quelque chose à faire ensemble. Ça, l'expérience l'a montré. Simplement, nous n'avons pas le système institutionnel capable de traduire cette convergence, ce rapprochement, cette compénétration. Quelle est la nature de ce processus politique de convergence, de fédération, si l'on veut bien, il y a lieu d'écarter aucun terme, qu'il y a du sens à mener entre les nations européennes, et en vue non pas simplement d'une identité européenne, mais en vue d'une exemplarité à l'échelle du monde. C'est de cette façon que l'Europe pourrait retrouver quelque chose de son génie historique, dont la construction européenne actuelle est un éteignoir. C'est pas, il y a là aucune fatalité. Hein, en un mot, pour reprendre et terminer là-dessus, reprendre le mot emblématique de tous les programmes politiques d'aujourd'hui, il faut se demander pourquoi. S'il y a une chose à refonder, parce qu'il faut tout refonder, c'est assurément l'Union européenne.